Mythes, histoires et légendes, Caen, l'épopée millénaire, un podcast by Tendance Ouest.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'épopée millénaire. Ce mois-ci, on s'intéresse aux mythes et légendes de la ville, ainsi qu'aux faits divers, un terme qui est apparu pour la première fois en 1863 dans le quotidien parisien Le Petit Journal. Ces événements, qui surviennent à proximité, suscitent toujours beaucoup d'émotions dans notre société. Par commérage, empathie ou identification, nous sommes curieux de comprendre comment ces drames sont arrivés. Et souvent, autour d'eux, des rumeurs, des légendes naissent et se propagent. Pour cela, il n'a pas fallu attendre le 19e siècle. Dès le Moyen-Âge, des mythes ont éclos autour de la ville de Caen et ont participé à la construction de son histoire. C'est sur ces événements que l'autrice Anne Percher s'est appuyée pour créer la visite insolite Petit Mystère dans Caen, une découverte originale des légendes qui habitent le centre-ville et ses alentours.
Avec les mystères dans Caen, ce qu'on voulait, c'était remettre un petit peu, expliquer aux Caennais et même aux touristes de passage, mais surtout aux gens du coin, les histoires, qu'est-ce qu'il y a d'insolite dans leur ville, qu'est-ce qu'il y a qui peut les surprendre, des légendes urbaines, des faits historiques, mais toujours voir ce côté un peu anecdotique de l'histoire. Après, ça a mis pas mal de temps à se monter, c'était avec les archives, dans les archives de la presse, dans les archives du Calvados, avec plein d'entités comme ça aussi qui m'ont aidé à monter la visite. Après, c'est toujours ce que je dis, hein, les gens nous demandent la véracité, on parle de fantômes, on parle de... Voilà, ça reste des sujets, on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, ça s'est monté sur le temps et ça s'est monté avec toujours cette volonté de raconter des histoires qui sont certes un peu fantasmées, mais en tout cas qui partent d'un postulat qui est vrai. De toute façon.
La plus célèbre des anecdotes de la ville de Caen est incarnée par le couple en vogue de l'époque, Guillaume le Conquérant et Mathilde de Flandre. Une histoire qui hante encore aujourd'hui les pavés de la rue Froide.
On aime bien la raconter aux étudiants de passage, aux gens qui viennent visiter la ville. La rue Froide s'appelle comme ça grâce à nos deux plus célèbres Normands, Guillaume et Mathilde. Guillaume serait rentré de campagne et aurait trouvé Mathilde au lit avec un autre homme. Vous imaginez un petit peu sa colère, évidemment. Donc, il a dû montrer à Mathilde comment ça se passait. Et il a attaché les cheveux de Mathilde à la queue d'un cheval. Et il l'a traîné partout dans la rue, dans la ville, dans la rue, partout. Quand elle est passée par la rue Froide, Mathilde se serait écriée « Dieu, quelle froide rue !» Le nom serait resté. Donc, évidemment, on peut remercier le flegme de Mathilde qui, comme ça, les cheveux attachés à la queue d'un cheval, a le temps de dire, en passant par la rue pavée, « Dieu, quelle froide rue !» Mais le nom de la rue Froide vient d'ici, vient de Mathilde, précisément.
Cet événement, contrairement à d'autres, ne serait vraiment qu'une légende urbaine. Dans les faits, Mathilde est un personnage qui a toujours été très apprécié des Normands, qui a dédié sa vie aux œuvres caritatives et aucune trace historique ne permet de vérifier cette histoire.
Il y a plein d'éléments qui font que la rue Froide s'appelle comme ça. On a l'Odon qui passe en dessous, les murs sont hauts, et enfin l'église à la base dans la rue, enfin, le nom vient de l'église. On raconte cette histoire, mais dans les faits, Mathilde et Guillaume... Se met vraiment, semble-t-il. Ils ont pas, il y a aucune trace de maîtresse, il y a aucune trace d'amant non plus. Il y a pas eu de bâtard, tout ça. Donc non, c'est vraiment une légende qu'on raconte et parce qu'on aime bien, mêler nos deux célèbres Normands à tout ça.
À présent, si certains d'entre vous connaissent la célèbre histoire de la bête du Gévaudan, cet animal légendaire qui a fait une centaine de morts en Isère sous le règne de Louis XV entre 1764 et 1767, sachez que bien avant, en 1633, un événement similaire s'est produit à Caen. Il a pris le nom de la bête de Caen.
Et la bête de Caen, elle s'appelle plus précisément la bête de Cinglé, comme le village, donc AIS à la fin, le village qui s'appelle maintenant Cinglé en Moutier. Et effectivement, c'est une bête qui a tué comme ça pendant un an les habitants des environs. On retrouvait des morceaux de corps dans la ville. Dans la ville, et il y en a même qui avaient été retrouvés dans des maisons avec des portes fermées.
Une histoire qui ressemble à s'y méprendre au récit du fameux jeu de société Le Loup-Garou, mais qui a vraiment existé. Qui se cache derrière ces crimes? À l'époque, les soupçons se dirigent directement vers une mystérieuse bête.
Il y a eu une immense battue qui a été organisée pour justement tuer cette bête. On a tué un immense loup roux d'une rapidité, d'une agilité sans normes. Apparemment, il y avait des milliers de personnes qui étaient à cette battue. Et une fois que la bête a été tuée, il n'y a plus eu de mort derrière. Donc c'est pour ça, hein, on peut toujours se dire, c'est bon, la bête est morte, c'est fini. Quand même du mal à penser que c'est toujours une bête seule qui puisse faire ça. C'est exactement comme à la bête du Gévaudan, il y a toujours eu cette question de est-ce qu'une bête, enfin la bête semblait trop intelligente, les gens étaient presque visés, il y avait des choses qui étaient faites sur les corps qui paraissaient presque chirurgicales. Les animaux sauvages ont des comportements qui sont pas forcément ceux-là, il y a peu de chances qu'ils aillent dans une maison dévorer quelqu'un à la base. Oui. généralement, un loup, ça n'a pas l'appréhension, hein, ça ne peut pas ouvrir une porte. Donc il y a toujours cette question, mais voilà, que ce soit la bête de Caen, la bête du Gévaudan, il y a ces questions-là. C'était des comportements qui font que des animaux sauvages, à la base, n'iraient pas aussi près des hommes, ou n'iraient pas près des hommes avec des chiens, enfin... Mais la traque de cette bête, il y a des livres entiers dessus, la personne qui l'a tuée est devenue un héros national, c'est vraiment une affaire qui, à l'époque, fait sensation. C'est un peu le premier fait divers qu'on ait eu, bah, qui a en tout cas fait venir les journalistes de la France entière, donc c'est quand même assez remarquable.
Comme vous pouvez le voir, les mythes et légendes qui habitent les rues caennaises sont plutôt sordides, et c'est sûrement pour ça qu'elles continuent d'être racontées et de fasciner autant. La prochaine histoire se passe pendant la Révolution française, synonyme de fin funeste pour la noblesse, notamment pour un certain vicomte, Henri de Belsens.
Le vicomte de Belsens était le major en second du régiment de Bourbon. Donc on se situe en août 1789. La Révolution a commencé à Paris, mais elle est arrivée très rapidement à Caen. Donc Caen a toujours été un bastion révolutionnaire. Il faut le savoir, on a toujours eu cette volonté de se mêler aux actes de révolution. Donc le 12 août 1789, le vicomte de Belsens, c'est un personnage assez horrible. Hein. Il oppresse la foule, il donne des avantages à ses amis. Bon, voilà, quelqu'un qui a du pouvoir et qui s'en sert et qui s'en sert mal, malheureusement. Il est retenu à la prison du château. Il est sorti par la foule en colère. Et là, on a deux versions sur sa mort. En tout cas, dans les deux cas, il connaît une mort atroce. Il est donc tué, selon toute vraisemblance, près de la rue Saint-Pierre. Et son corps est traîné, piétiné jusqu'à la place Saint-Sauveur, qui s'appelait place du Pilori, hein, où là, il a commencé à être démembré et mangé par la foule. Donc on est quasiment, quand on regarde les archives, on est quasiment sur un barbecue. Hein. Enfin, ils l'ont fait griller et ils ont commencé à le manger, effectivement.
Une autre version tout aussi lugubre raconte qu'un ouvrier aurait joué au pied avec son cœur sur la place Saint-Sauveur, que vous ne verrez peut-être pas de la même façon à présent. À quelques pas de là, la rue Arcisse de Caumont, au numéro 3 exactement, abrite aussi son lot de légendes qui persistent encore aujourd'hui.
On a ce qui s'appelle l'histoire du poltergeist. Un poltergeist, c'est le mot allemand communément utilisé pour parler d'esprit frappeur. Donc on est sur une histoire de fantôme. Dans la rue Arcisse de Caumont, on a des familles à qui est arrivée la même chose, en fait, dans cette rue-là. Des familles avec un profil assez similaire, il y avait toujours un ou une adolescente. La famille emménage dans la maisonnée, pas de problème, tout se passe bien. Au bout d'un certain moment, un membre de la famille commence à entendre des bruits. Quelqu'un qui monte dans l'escalier. Ou alors, moi, je me représente vraiment très très fort ce bruit, le bruit d'une tasse qu'on pose sur la table. Personne n'est dans la pièce, donc il y a quelque chose... Voilà, les gens commencent à entendre des bruits, mais je veux dire, rien de bien méchant, finalement. Et après, donc, les bruits continuent, l'état de santé de l'adolescent ou de l'adolescente commence à empirer. Il tombe malade, il commence à avoir des marques. Donc les adolescents, ils ont commencé à avoir des marques comme si quelqu'un leur tenait le poignet, des marques de strangulation. Donc là, ça a quand même commencé à devenir un peu plus grave. Et dans une des familles, malheureusement, la jeune fille a essayé de mettre fin à ses jours pour arrêter justement ce qui s'est passé. La dernière famille qu'on ait dans la presse comme ça, c'est 1928. Mais depuis qu'on fait la visite, on a eu, sans rire, si on n'a pas eu... 50 personnes qui sont venues pendant la visite nous dire qu'ils avaient visité l'appartement parce qu'il est alloué assez souvent, hein. C'est comme ça, à chaque fois on a l'affiche de l'agence immobilière parce qu'il est alloué, et les gens l'ont visité. On a une dame qui a vécu dedans pendant 9 mois et qui nous a fait un récit mais de 3 heures de tout ce qui avait pu lui arriver dedans, et c'était l'antichambre de l'enfer à ses yeux. C'est assez fou. Encore maintenant, on a des gens, quand on s'arrête devant cet emplacement, qui disent non, je vais plus loin, je me sens pas bien. Donc vraiment... C'est toujours pareil, hein, c'est des histoires, on vous parle là de surnaturel, on vous parle aussi de croyances, ça touche à quelque chose chez les gens, mais cette histoire, elle est jamais indifférente.
La ville de Caen regorge de mystères, et en 1000 ans d'histoire, elle a accumulé son lot de récits insolites, certains légers, d'autres plus sombres, comme vous avez pu le découvrir dans ce podcast. Si le sujet vous intrigue, vous pouvez vous procurer à l'Office du Tourisme le carnet Mystères dans Caen, qui révèle les autres secrets et légendes urbaines du centre-ville. Un grand merci à Anne Percher pour nous avoir partagé ces histoires énigmatiques. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle étape de cette épopée millénaire.
L'épopée millénaire, le podcast des amoureux de Caen.